Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Oui, c'est vrai, nous avons besoin de recharger nos batteries parce qu'on ne peut pas faire une réserve de la grâce de Dieu et dire que ça va durer longtemps. Il faut se recharger tous les jours, minute après minute, seconde après seconde. Et nous sommes dans ce livre de Daniel qui, effectivement, est là pour stimuler notre foi, pour nous encourager à la fidélité. Et le livre de Daniel nous a été donné pour démontrer la souveraineté de Dieu. On voit que des empires passent, d'autres viennent, mais Dieu est celui qui dirige l'histoire des nations, l'histoire des empires et l'histoire des individus, comme il l'a fait pour Daniel et ses compagnons. Il dirige la destinée des rois et il a l'histoire entre ses mains. Le livre de Daniel aussi nous fait connaître le dessein de Dieu pour Israël et pour les nations, c'est les chapitres que nous verrons plus tard. Et puis, Dieu envoie Dieu qui châtie son peuple, mais qui ne l'abandonne pas. Et puis le livre de Daniel aussi donne l'assurance aux Juifs que l'exil ne va pas durer éternellement. Ça a un temps, une durée, et Dieu va mettre un terme à cet exil. Et enfin, le livre de Daniel est là pour inciter à une vie de piété, et Daniel nous encourage, ses compagnons aussi nous encouragent, et nous montre un peu plus loin le témoin par excellence, Jésus-Christ, qui a aussi été éprouvé et qui a été fidèle à son Dieu. Eh bien, nous sommes à la fin de cette première partie qui est historique et qui raconte un peu les expériences de Daniel, les premiers chapitres jusqu'au chapitre 6. Et nous sommes ce matin dans le chapitre 6 de Daniel que je vous invite à prendre avec moi. Chapitre 6 que l'on peut découper en trois parties. On voit d'abord un complot contre Daniel. On voit ensuite que Daniel est jeté dans la fosse aux lions et enfin, versets 18 à 28, comment Dieu délivre Daniel. Voilà, donc chapitre 6, c'est un chapitre qui est bien connu. Nous commençons à partir du verset 1. Alors là, l'Empire de Babylone est tombé, et maintenant c'est les Mèdes et les Perses qui tiennent les rênes de l'histoire. Alors, je commence au verset 30 du chapitre 5. « Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. » Donc, Chaldéens ou Babyloniens, c'est la même chose. « Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ? Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Voilà. Eh bien, donc comme j'ai dit, ce chapitre s'ouvre sur un changement de dynastie. Babylone a été renversée par les Mèdes et les Perses, et voilà que Darius prend la main. Et il a pour mission d'intégrer cet ancien empire babylonien dans l'empire médo-perse. Il cherche un homme honnête, un homme d'une honnêteté irréprochable à qui il pourra donner la gestion des finances. Il faut que cet homme soit irréprochable parce que s'il ne trouve personne, eh bien, tout l'appareil administratif risque de se désagréger. Et Daniel est l'homme qu'il lui faut. Sa vie spirituelle, déjà éprouvée sous Nebuchadnezzar et sous Belshazzar, garantit son intégrité et son incorruptibilité. Il nous est dit au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. La réputation de Daniel l'accompagnait, et c'est vrai qu'il, sous Belshazzar, sous Nebuchadnezzar, c'est lui qui d'ailleurs qui avait donné à Belshazzar l'interprétation des écritures sur le mur, et bien Darius était un acteur de ce renversement de Babylone, et il a certainement entendu dire que Daniel avait donné cette explication avec justesse. Et donc voilà un homme qui est loyal, qui est honnête, digne de confiance. Mais en réalité, Daniel avait le désir, le souci permanent de plaire avant tout à son Dieu. Ce Dieu grand et redoutable dont il parlera dans Daniel chapitre 9, verset 4. Daniel voulait plaire à son Dieu d'abord par la qualité de son travail. Il était certes au service de Darius, mais il était avant tout serviteur du Dieu vivant, comme on peut lire au chapitre 6, au verset 20, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions. Voilà. Daniel avait laissé ce témoignage durant toute sa vie, depuis son adolescence. Il avait été déporté adolescent à Babylone et il était résolu à suivre, faire la volonté de son Dieu, en dépit de tout. Sa santé physique importait peu, sa santé spirituelle était bien plus importante. Et ça doit nous interpeller aussi. Dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, nous sommes serviteurs du Dieu vivant. Je lisais cet extrait dans un ouvrage biblique qui disait « L'hébreu, fait significatif, a un même terme pour désigner le travail, le service et le culte. Il n'existe aucune cloison étanche dans la pensée biblique entre le labeur quotidien, notre travail de tous les jours, et l'adoration de Dieu. Déjà, les premières pages de l'Écriture relient de façon étroite l'activité manuelle et le service du Créateur. Le culte, au sens étroit où nous l'entendons aujourd'hui, fait donc partie d'un vaste service que Dieu attend de son peuple. Ou mieux encore, tout ce que les croyants font peut et doit être un acte cultuel. Quand nous faisons la cuisine, quand nous nettoyons notre maison, quand nous allons au travail, nous rendons un culte à Dieu. Nous l'honorons par la qualité de notre travail. Tout acte que nous faisons est pour l'honneur de Dieu. On peut lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 10, tournez. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Tournez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Nous lisons. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. On peut prendre Colossiens aussi, tournons les pages de notre Bible, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et ensuite, verset 23. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et le verset 23 dit un peu plus bas, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Voilà. Dans tout ce que nous faisons, nous servons le Seigneur. Tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu. Et Daniel était d'abord serviteur de Dieu, et donc tout ce qu'il faisait était pour la gloire de Dieu. Donc il était fidèle dans tout ce qu'il faisait, il était honnête dans son travail. D'ailleurs, Romains nous dit, Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, Hébreux aussi, chapitre 12, verset 28, nous lisons, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Et donc, le véritable culte chrétien commence par la consécration de tout notre être à Dieu. Nous offrons entièrement à Dieu. Et ça englobe toute notre vie. Et ce culte agréable à Dieu est inspiré par l'Esprit de Dieu et par notre reconnaissance pour tous les bienfaits de Dieu. Luc chapitre 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Daniel était fidèle dans les petites choses dès son arrivée à Babylone parce qu'il était résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi et étaient résolus à plaire à Dieu dans toutes choses. Alors, quand on est au pouvoir comme ces chefs et ces satrapes, on a envie de gravir les échelons, on a envie de se remplir les poches. Et les gens savaient qu'avec Daniel, ça ne marcherait pas. Et donc, il fallait trouver un moyen de le faire tomber, de l'évincer pour que eh bien, ces gens qui ont envie de s'enrichir ne trouvent aucun obstacle devant eux. Eh bien, ils cherchaient une faille dans la vie de Daniel et ils n'ont trouvé aucune faille. Ils se sont dit, eh bien, si on ne trouve pas de point faible, cherchons un point fort. Et le point fort était tout trouvé. Ils savaient, verset 5, on lit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu, dans sa vie de service pour le Seigneur. Eh bien, ils n'ont aucun mal à trouver. On voit que, au verset 10, que Daniel, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est pas d'aujourd'hui que Daniel faisait ça. Il l'a fait depuis son arrivée à Babylone. C'était un homme de Dieu. Et donc, ils ont dit, voilà, on a trouvé de quoi faire tomber Daniel. Ils sont rendus tumultueusement, nous est-il dit, au verset 6 du chapitre 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement. » Alors, c'est ses anciens collègues d'abord. Donc, il y a trois chefs dont Daniel est l'un d'eux. Donc, ce sont des collègues. Et puis, il y a des subordonnés, 120 satrapes qui sont au-dessous. Eh bien, ils vont agir en traîtrise. Voilà. Et ces hommes vont manœuvrer habilement pour que le roi Darius puisse écrire une loi, la signer, un édit qui interdit à quiconque de prier pendant 30 jours un dieu ou une personne, excepté le roi Darius. Le roi Darius allait être élevé au rang de dieu suprême pendant 30 jours. Vous imaginez que ça flattait son orgueil. Alors, ces gens-là, nous étaient dit, n'ont trouvé, verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alors j'ai dit que Daniel c'est un jeune homme quand il a quitté Jérusalem et qu'il s'est rendu à Babylone, un adolescent. Donc tout ça, c'était en 605 avant Jésus-Christ, quand il a été déporté à Babylone. Et il a servi loyalement sous le règne de Nebuchadnezzar d'abord, sous le règne de Belshazzar, et Belshazzar tombe, Babylone est prise en 539, quand Darius s'empare du royaume. Et donc quand on compte, vous faites 605 moins 539, vous trouvez 66 ans. 66 ans de bons et loyaux services. Et donc plus les 20 ans un peu, donc Daniel a à peu près 80 années. On aurait pu dire, mais il a servi déjà depuis, il a maintenant 80 ans, il a servi fidèlement, il pourrait prendre un repos, hein, une sorte d'avant-goût du ciel. Et Daniel aurait pu laisser cette pensée traîner dans sa tête, dire oui, bon, c'est bien maintenant, il faudrait que je lève le pied, que je ne fasse plus rien, que je m'occupe de moi. Après tant d'années de labeur et de combat, n'est-ce pas mérité, n'est-ce pas une sorte de récompense? Il nous arrive aussi parfois de raisonner comme ça dans la vie chrétienne. On dit, voilà, ça fait un temps que je suis chrétien, maintenant je pourrais lever le pied un peu. Voilà, nous ne le disons pas comme ça, mais dans la pratique c'est ainsi. On n'est plus engagé comme avant. Pourtant, on a la possibilité, mais on ne l'est plus. On s'engage toujours plus dans les choses de la vie, mais avec Dieu, on recule petit à petit, voilà. On arrive à faire le minimum vital. Vous imaginez, frères et sœurs, que si Daniel avait raisonné comme cela, avait dit, bon, c'est un temps maintenant que, voilà, j'ai déjà assez fait, je laisse tout ça. S'il avait raisonné ainsi, il n'aurait pas pu tenir cette épreuve difficile. Il n'aurait pas eu cette foi ferme dans le Seigneur. Et Daniel savait une chose, frères et sœurs, qu'il nous faut retenir. À tout âge, le croyant est engagé dans un combat spirituel. Il n'y a pas de vacances pour le croyant. Il n'y a pas de laisser-aller. Au fil des ans, le combat spirituel ne diminue pas. Même ce vieil homme de 80 ans va être éprouvé d'une certaine façon. Et le combat ne disparaît pas, mais il prend une autre forme avec l'âge et selon chacun, il prend une autre forme. Et pourquoi cela? Pourquoi ce combat ne diminue pas? Parce que le diable ne cotise pas à une caisse de retraite pour prendre sa retraite un jour et dire « Voilà, j'ai fini mon travail, je laisse les chrétiens tranquilles, ils peuvent vivre la belle vie. » Non. Tous les jours, nous pouvons être éprouvés, le diable jusqu'à la fin du monde éprouvera les chrétiens. Nous sommes ses proies préférées. Paul écrivait à Timothée « Combat le bon combat de la foi. » Et dans sa dernière lettre à Timothée, il lui disait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Donc pour nous, c'est un encouragement à ne pas nous relâcher quand on sent qu'on est fatigué, quand ça dure, quand il y a des épreuves diverses et variées. Non, Dieu est fidèle, il nous tiendra jusqu'à la fin, il nous demande de rester fidèle. Donc, les adversaires de Daniel n'ont pas trouvé de point faible en lui, donc ils vont chercher une faille, ils vont chercher plutôt son point fort. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Eh bien, ils vont trouver que sa vie de prière, il est fidèle. Tous les jours, il prie 3 fois par jour, il observe et pas un jour, Daniel ne manque de prier. Il le fait, les fenêtres ouvertes, il le fait tourner vers Jérusalem, voilà. Et Darius, donc, ils vont bien manœuvrer pour que Darius tombe dans le piège. Et effectivement, verset 9, on voit que Darius, là-dessus, le roi Darius écrivait le décret et la défense. Mais regardons comment ils s'y sont pris. Au verset 7, voilà ce qu'ils disent au roi. D'ailleurs, ils arrivent, au roi Darius vit éternellement. Ils disent au verset 7, « Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal. » Est-ce que tous les chefs ont été consultés? Daniel était un des chefs, il n'a pas été consulté. Ça, c'est un mensonge. Et puis, ils vont user de flatterie, enfin, d'une certaine façon. Et ce décret était censé renforcer l'autorité de Darius, de consolider son règne nouveau. Mais en fait, ça flattait son orgueil. Élevé au rang de Dieu pendant 30 jours, vous imaginez. Donc on signe, on écrit vite la loi, on signe, on met le tampon. Voilà. Et voilà, le piège s'est refermé. Et alors, les ennemis de David triomphaient, ils jubilaient. Ils savaient que malgré ce décret-là, Daniel persévérerait dans la prière. On peut se demander, on voit que maintenant Daniel se trouve seul contre tous. Ses collègues l'ont abandonné, le roi a signé son arrêt de mort, voilà. Mais est-ce que Daniel était vraiment seul? Il n'était pas seul, le Seigneur était avec lui. Il avait sa foi en Dieu pour lui, il avait expérimenté ça depuis sa jeunesse. Et qu'est-ce qu'il va faire Daniel? Eh bien, il ne va pas paniquer, il ne va pas consulter les hommes. Il nous a dit au verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Daniel ne change pas ses habitudes. Il retourne chez lui pour prier et rendre grâce à Dieu. Il ne fait pas ça d'une façon ostentatoire dans la rue, disant « Oh, voilà Daniel !» Non, il est chez lui. Il ne se cache pas non plus, ses fenêtres sont ouvertes. Il poursuit sa vie de piété comme à l'habitude. Daniel, mes amis, chers et sœurs, aurait pu cesser de prier pendant 30 jours. Il dit, j'ai cessé de prier, c'est juste 30 jours, ça ne va pas être longtemps. Il aurait pu faire des petites prières en cachette. Voilà, des prières express. Qu'aucun espion n'aurait pu déceler. Mais Daniel n'a pas cessé de prier, même pendant 30 jours, parce que Daniel connaissait Dieu d'une façon intime. Il pouvait dire comme Asaph qui dit au psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. » Il prie Dieu, il loue Dieu, comme à l'habitude. Pour Daniel, prier régulièrement, c'était respirer l'oxygène spirituel. S'arrêter de prier, c'était à coup sûr la mort spirituelle. Il n'a pas hésité un moment parce qu'il a une connaissance vivante, une vision juste du Dieu des cieux. Et Darius ne faisait pas le poids contre l'Éternel. Dans la balance, l'Éternel était toujours celui qui pesait parce qu'il était le Très-Haut. Et on voit que Daniel a une vision juste, perçante de Dieu. Et il la possédait déjà, jeune homme. Et quand on tourne les pages, allez avec moi au chapitre 2 et au verset 20. Quand on lit cette confession de Daniel, chapitre 2, verset 20, Daniel prit la parole et dit: « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Regardez au verset 21, Daniel dit: « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Donc qui a mis Darius là? C'est l'Éternel. Qui pouvait le renverser? C'est l'Éternel aussi. Donc Darius ne faisait pas le poids. Il n'était pas question de plier devant Darius, comme d'ailleurs ses compagnons n'ont pas plié devant la statue de Nebuchadnezzar. Donc il avait aussi cet encouragement de ses trois compagnons qui ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils n'avaient pas accepté d'adorer la statue. Ici. Alors, nous lisons dans Daniel chapitre 11, verset 32, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Daniel chapitre 11, verset 32. On peut se demander, frères et sœurs, qui agissait en coulisses? Ces hommes, hein, les hommes, les satrapes, les chefs, qui étaient là en coulisses? Le diable. Le diable, frères et sœurs. Qui est le chef du mensonge? Qui est-ce qui manipule les hommes? C'est le diable. Et donc, c'est lui qui trompe, c'est lui qui ment, c'est lui qui pousse à faire le mal. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et Jean Chrysostome, un croyant, disait: « Celui qui prie a sa main sur le gouvernail du monde. » Chadwick, un autre croyant, disait: « La préoccupation majeure du diable, c'est d'empêcher les saints de prier. Il ne craint rien des études bibliques sans prière, du travail sans prière, de la religion sans prière. Il se rit de nos peines et se moque de notre travail, mais il tremble lorsque nous prions. » Voilà. Parce que lorsque nous prions, le diable est assiégé. Et Murray écrivait: « L'enfant de Dieu peut tout vaincre par la prière. Dès lors, est-ce étonnant que Satan fasse tout son possible pour arracher cette arme des mains du chrétien ou pour l'empêcher de s'en servir ?» Vous savez, frères et sœurs, que, chers amis, notre Sauveur et Seigneur est un homme de prière. Lorsqu'il était sur terre, il se retirait. Il se retirait dans les déserts, il priait dans Luc chapitre 5, verset 16. Il faisait ça souvent pour être seul avec son Père. Avant de choisir ses disciples, il a prié toute une nuit. Vous trouverez plein de références à cette vie de prière intense. Lui qui était parfait. Et on aurait pu dire, mais il n'a pas besoin de ça. Et nous qui sommes imparfaits, nous priverions donc de la prière, d'être fortifié par le Seigneur, de nous rendre auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà, que fait-il aujourd'hui notre Seigneur? Eh bien, nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 33 à 34. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Même là, encore, le Seigneur intercède pour nous. Et quand il savait que les disciples allaient tous paniquer à l'annonce de sa mort, il a dit à Pierre: « J'ai prié pour toi. » Il n'est pas resté à discuter longtemps avec Pierre. Il a dit: « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Voilà l'efficacité de la prière. Voilà. Donc, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devons suivre l'exemple du Maître, n'est-ce pas? C'est ça un disciple. Voilà, si on suit, on apprend les pratiques du maître, on essaie de faire comme lui. Et notre maître priait quand il était sur terre, il continue de le faire. Donc c'est quelque chose d'important, la Bible nous exhorte à ne pas nous relâcher. Est-ce que nous cultivons actuellement une relation personnelle avec Dieu dans la prière? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous avons le désir de progresser dans notre vie de prière? Daniel nous encourage, n'est-ce pas? Est-ce que dans notre emploi du temps, nous avons un rendez-vous avec l'éternel Dieu? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'écrans, tellement de choses, la pression de nos emplois du temps souvent nous prive d'un temps précieux et de qualité avec Dieu. Avons-nous un temps calme, une chambre haute, une chambre dont nous pouvons fermer la porte, peut-être partir dans les bois ou un autre endroit où nous pouvons être au calme et ne pas être dérangés et nous entretenir avec Dieu? La prière, c'est pas seulement frotter la lampe magique. Voilà, c'est pas se rendre auprès du Père Noël, c'est un entretien avec Dieu. Nous parlons avec Dieu et il nous parle. Comment savons-nous qu'il nous a répondu? C'est parce que nous accordons nos oreilles, nous accordons notre cœur à celui de Dieu. Et nous prions, et en même temps, dans nos cœurs, il nous donne la réponse. Il nous donne la patience aussi. Nous apprenons, dans ces moments, à mieux discerner la voix de Dieu, à mieux discerner sa volonté. Donc Daniel avait cette chambre haute où il pouvait prier. Bon, c'est vrai qu'il était un ministre, il y avait beaucoup de gens qui traversaient sa maison, donc c'était un peu ouvert, mais le Seigneur nous recommande d'avoir ce seul lieu particulier où on peut prier et s'entretenir avec lui. Donc Daniel avait cet endroit où il pouvait prier. Il nous est dit aussi que Daniel priait, il avait une attitude particulière quand il priait. Nous retournons au chapitre 6, il nous a dit qu'il... Au verset 10, il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Pourquoi cela? Eh bien, on peut regarder 1 roi, chapitre 8, et voir pourquoi Daniel prenait cette posture-là et se tournait dans la direction de Jérusalem quand il priait. 1 roi, chapitre 8, verset 46. À 49. Alors, nous sommes à ce moment de la dédicace du temple. Le temple est bâti et Salomon fait cette belle prière. Vous pouvez la lire tranquillement. Et nous sommes au verset 46, où Salomon prie et dit à Dieu, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, il les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. » C'était un peu prémonitoire. Il connaissait, voilà. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, le regard tourné vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toute cette transgression contre toi, excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de feu. Voilà, Daniel s'appuie sur la parole de Dieu. Sa prière est ancrée profondément dans la parole de Dieu. Il prenait au sérieux la parole de Dieu et, bon, je n'ai pas le temps de développer, mais depuis sa jeunesse, il a bénéficié des prophètes qui étaient là. Autant il y avait le peuple sombré dans l'idolâtrie et Josias avait retrouvé la loi de Dieu, une bombe, voilà. Et il y avait des prophètes qui prophétisaient pour ramener le peuple vers Dieu. Et Daniel était sensible à la parole de Dieu. Sa prière s'enracine dans la parole de Dieu. On le verra aussi au chapitre 9 où il prie, il regarde les textes et il est encouragé à prier parce qu'il voit que l'exil va arriver à son terme, chapitre 9. Quelles que soient les circonstances, Daniel s'appuie avec hardiesse sur les promesses de Dieu, on le voit en étude biblique. Beaucoup d'hommes prient selon les promesses de Dieu, nous sommes encouragés à le faire. Dans le Nouveau Testament aussi, les disciples prient et beaucoup de gens prient. Nombre 23, verset 19, « Car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Si nous voulons prier selon la volonté de Dieu, si nous voulons connaître sa volonté, parce que c'est ainsi que nous allons être, nous avons l'assurance d'être exaucés. Nous demandons ce que Dieu veut que nous demandions. Eh bien, nous devons prier selon la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Donc, quand il priait les regards tournés vers Jérusalem et vers le temple, c'était tout d'abord pour s'adresser à un Dieu qui était infiniment grand, un Dieu puissant dont la gloire avait rempli le temple. Daniel n'avait pas une petite vision de son Dieu, il ne voyait pas de gros problèmes. C'était un gros problème, ce qu'il vivait. Il risquait sa vie. Mais Dieu était plus grand que ça. Et quand il tournait les yeux vers Jérusalem, eh bien, ça rappelait à son cœur et son esprit que « Mais Dieu est grand !» Sa gloire avait rempli le temple. Quand il priait les regards tournés vers Jérusalem et vers le temple, c'était aussi qu'il s'appuyait sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? C'est s'appuyer sur sa miséricorde, sur sa compassion, sur sa lenteur à la colère, sur son amour sans limite, sur sa fidélité, sur son pardon, sur sa justice parfaite. L'orientation du cœur de Daniel, ce qui était en lui, et sa façon de prier, sa posture, son regard vers le temple de Jérusalem, nous encourage, nous aussi, à chercher inlassablement notre Dieu dans la parole, pour mieux le connaître, pour l'aimer, pour le servir. Nous devons développer une vision de Dieu qui n'est pas sentimentale, une vision juste, une vision de plus en plus conforme aux Écritures. C'est là que l'on découvre qui est Dieu. C'est ces miracles, les prodiges, c'est là où tout nous est révélé, dans la Bible. Ainsi, nous aurons de quoi alimenter notre vie de prière pour qu'elle soit plus féconde, qu'elle soit régulière. Et finalement, nous ne pourrons plus nous passer de prier. Mais j'entends certains dire déjà, « Oh, la lecture, oh là là, c'est un fardeau pour moi. Hein. Depuis petit, c'est pas trop mon fort, je n'ai jamais vraiment aimé beaucoup lire. » Alors, je vais parler à la façon des hommes d'abord. Quand, si vous jouez d'un instrument de musique, moi j'ai appris à jouer de la guitare classique, on commence à jouer avec deux cordes, les deux petites, deux doigts, c'est tout. Après, on met un doigt après l'autre sur le manche. Après, on fait les arpèges. On fait les gammes. Do majeur, la mineur, ça ne ressemble à rien. Mais il faut s'entraîner. Au fur et à mesure, on maîtrise l'instrument. Quand on fait du sport, pareil. On commence à faire un tour de terrain. On fait des pompons, des messieurs. C'est pas ça. Mais on commence petit à petit. On progresse. Voilà. Ça, je parle à la façon des hommes. Mais je dirais que si nous sommes chrétiens, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons reçu une vie nouvelle. Et donc, nous sommes des gens complètement nouveaux. Et la parole de Dieu n'est pas un livre comme les autres. Le psaume 119 loue la parole de Dieu. Et le psaume 19 nous dit que cette parole est plus précieuse que l'or, beaucoup d'or fin, que cette parole est plus douce que le miel qui coule des rayons. C'est-à-dire que c'est une richesse inestimable, la parole de Dieu. On est riche quand on a la parole de Dieu. Mais c'est une douceur aussi pour notre vie si on la lit. Il y a beaucoup de choses. Ça va être un baume, un médicament pour bien des problèmes. On peut lire 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Pour voir ce que Pierre nous dit sur la parole de Dieu et sur nous. 1 Pierre chapitre 2. Et nous commençons au verset 4. Il parle à des croyants qui sont justement persécutés. Il dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. En fait, il nous dit déjà de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Les enfants qui viennent de naître, ils veulent le lait maternel, hein, ils ne veulent pas d'autre chose. Eh bien, Pierre nous dit d'être comme ça, avoir envie de la parole de Dieu. Il faut déjà désirer cette parole de Dieu. On a envie, pourquoi? Parce que on a vu aussi, on a déjà goûté que le Seigneur est bon. Voilà. On lit la parole, c'est pas un fardeau de lire la parole. Mais parce que le Seigneur est bon, on a envie de le connaître de mieux en mieux. On a envie de grandir. Et il dit, le lait spirituel est pur, donc c'est la parole de Dieu, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Quelqu'un disait, voilà, c'est-à-dire que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas de quoi alimenter notre vie de prière. Ça va être une vie de prière. On va prier 5 minutes, on va s'arrêter. Mais cette parole renouvelle jour après jour notre vision de Dieu. Elle a fait grandir, elle nous soutient, et on revoit les promesses de Dieu. Le peuple d'Israël était oublié, Dieu lui a reproché ça. Et nous n'avons pas seulement, comme Daniel, un petit morceau de la parole. On a toute la parole de Dieu. Et il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on l'ait aujourd'hui. On a chacun ça dans notre langue. Et des fois, il y a 1, 2, 3, 4 Bibles. Il y a maintenant à la maison de la Bible, et j'entendais dernièrement des gens qui disaient, mais pourquoi une Bible pour les femmes? Pourquoi une Bible pour les enfants? Une Bible pour les hommes? C'est la même parole de Dieu. On a ça. Donc, c'est par cette parole-là, comme Daniel, que nous allons grandir. Voilà, elle est plus douce que le miel. Elle a une vertu vraiment grande. Et donc, on peut lire Ésaïe chapitre 55. Une dernière référence. On pourrait prendre plein de références sur cette parole de Dieu, qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Mais Ésaïe, j'aime bien Ésaïe 55, versets 10 à 11. Et ça, nous pouvons le voir tous les jours. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quelqu'un a écrit, nous ne devons jamais prier sans avoir la clé des promesses. S'il y a une préparation à la prière, il y a aussi cette lecture de la parole à faire. Quelqu'un écrivait, la prière ne fait que moudre le grain de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas le grain de la parole de Dieu, votre moulin à café, votre moulin à prière tourne dans le vide. Il faut ces grains de la parole de Dieu. Voilà. Et donc pour avoir une vie de prière féconde, nous avons besoin de lire la Bible. Pas un petit verset comme ça, à droite, à gauche, selon notre envie. On prie, on dit ah, aujourd'hui ça. Les petits commentaires, les pains quotidiens, tout ça, c'est bien, mais on a toute la parole de Dieu. Il faudrait qu'on la lise de la Genèse à l'Apocalypse pour avoir cette grande vision de notre Dieu. Daniel n'avait pas toute la Bible, eh bien, Dieu délivra Daniel de l'épreuve d'une façon extraordinaire. Et donc, nous avons ce Dieu-là avec nous, nous avons toute sa parole. Eh bien, je vois que le temps est bien avancé. Que le Seigneur nous encourage à puiser dans la parole pour alimenter notre vie de prière. Les psaumes sont une belle source pour cela, mais toute la parole est un encouragement pour que nous soyons fidèles comme Daniel l'était, résolus comme il l'était. Eh bien, chantons ensemble, non jamais tout seul.